Merci Rodrigue, bonjour à tous. Je suis venu avec une petite illustration de circonstance. Mais avant, je voudrais. Je propose une petite vidéo très très courte, quelques secondes. Voilà une petite vidéo que j'ai trouvée hier sur Internet. Et je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans vos préparatifs de Noël. Les magasins, la course aux cadeaux. Je voulais d'abord remercier les enfants pour tout ce qu'ils ont fait. Vous savez que les enfants, ils ont mis tout leur cœur pour préparer ces petits gâteaux. Et ben simplement, je voudrais qu'on les applaudisse et qu'on les remercie. Vous savez, Noël, je crois que c'est, il me semble, la fête préférée d'un enfant, des enfants. Il y a une attente, une fébrilité. Et puis on attend le jour, et puis presque on a ce petit calendrier, vous savez, avec les chocolats dedans, où on attend aider à patienter, et chaque jour, on ouvre une petite case. Et vous savez, moi je travaille avec des jeunes, et je trouve ça rigolo de voir que même des jeunes qui sont en terminale, ils ont leur petit calendrier dans leur chambre, avec les chocolats. On reste des enfants, et notamment parce qu'il y a des cadeaux. Et je crois que c'est une fête, Noël, en fait, où tout le monde redevient le petit enfant qu'il était. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Quand je reçois un cadeau, au moment des cadeaux, il y a l'enfant en moi qui se réveille, l'enfant en moi qui s'émerveille à nouveau. Et puis, on est là. Puis, on a le cadeau là devant, dans notre main. Et puis, il y a des émotions, il y a la curiosité. On se dit, ah tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et puis ça touche aussi à un cadeau, parce qu'un cadeau, ça veut dire qu'on m'aime, et puis ça veut dire que j'ai de la valeur. Et donc, recevoir un cadeau, c'est un moment où l'enfant en nous se réveille. Et j'avais envie, avant que les enfants nous quittent, de poser deux questions à quelques enfants, à ceux qui voudront bien répondre. Vous voulez bien répondre au micro ? Ouais ? Alors, la première question, c'est quel est le plus beau cadeau que t'es reçu à Noël?
Jésus.
Ah, pas mal, hein. Elle a tout compris, hein. Il était en chocolat. Quelqu'un d'autre? Le plus beau cadeau que tu as reçu à Noël?
Dieu.
Oh là là. Alors, c'est vrai qu'on est dans une église et peut-être dans la tête on se formate mode église, mais oh, le vrai cadeau. Vous n'avez pas de cadeau à Noël?
Des Legos.
Des Legos.
Ma DS.
Ok. Alors, une deuxième question que je pose aux enfants, mais en fait je la pose à tout le monde, hein, c'est quel est le cadeau que tu rêverais d'avoir un jour à Noël?
Une PS4.
Alors, je sais pas si les parents sont dans la salle, notez.
Un Rubik's Cube.
Un Rubik's Cube, ok.
Un drone avec une caméra.
Ah, pas mal. Ah, il a des bons goûts, hein, Elias. Hein. Je vois le papa là qui.
Nintendo Switch.
Ok. Et allez, deux derniers.
Le Playmobil en police.
Ok, je connais pas, mais on comprend. Et
un téléphone.
Ok.
Un téléphone.
Ok. Voilà. Merci beaucoup, les enfants, pour votre participation. On peut les applaudir et puis ils vont donc rejoindre une activité préparée pour eux. Ah, je laisse là. quel est le plus beau cadeau que nous aimerions recevoir un jour à Noël? Alors c'est vrai que Noël, c'est toute une tradition, Noël. Et avec ces petites images-là, de cette vidéo, on voit que rien que le mot Noël, il y a des images qui fusent dans nos esprits. Je ne sais pas, la première pour vous, quelle est-elle? On peut penser à des cadeaux, sapins, un gros Père Noël, magasin bondé, ça c'est moins rigolo. Puis certainement, d'autres plus gourmands vont penser à quelque chose qui se mange. Noël, c'est toute une tradition. Et vous savez ce qui fait la force d'une tradition? Parce que en fait, l'être humain est fait pour fonctionner avec des traditions. Eh bien, la force d'une tradition, c'est la vérité qu'elle rappelle. En fait, une tradition, c'est pas juste le folklore, etc. Ça a une fonction dans une société et ça sert à rappeler des vérités importantes. À rappeler des vérités importantes pour qu'on ne les oublie pas, pour qu'elles restent présentes. Alors, je suis sûr que si on allait dans la rue cet après-midi et qu'on faisait un petit sondage, au fait, qu'est-ce que c'est Noël pour vous? Qu'est-ce que c'est le sens de Noël? Pourquoi en fait Noël? J'imagine aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et le recul du christianisme en Occident, qu'on n'aurait pas toujours la bonne réponse. J'imagine. Alors, bien sûr, ici, en ce lieu, tout le monde connaît la bonne réponse, n'est-ce pas? Noël, c'est... la naissance de Jésus. En fait, Noël, c'est tout simple. C'est Jésus qui naît, la naissance de Jésus. Alors, je vous propose un premier texte de Noël qui se trouve en Luc 2, de 10 à 14. Et je vais le lire. Donc, c'est un ange qui vient voir des bergers. Il fait nuit. Et puis, soudain, il y a une lumière éclatante. Et puis, un ange vient et parle aux bergers. Et il leur dit, « N'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » La crèche. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. » Alors vous connaissez peut-être ce texte qu'on entend dans les moments de Noël surtout. Et ce qui est intéressant, c'est que ce passage dans l'évangile de Luc contient tous les éléments d'un vrai Noël. Il y a de la joie, et même le texte dit une très grande joie. Il y a bien sûr le bébé Jésus dans la crèche, qui paraît si fragile. Et puis, c'est un moment céleste en fait. Un moment où il y a des anges, il y a l'armée de Dieu qui est là. Il y a le ciel qui s'ouvre, il y a une gloire qui est présente. Et puis, il y a une proclamation, paix sur la terre. Alors cette année, on a le choix. On peut fêter Noël comme la majeure partie, je pense, de la société aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'élan de tout ce qu'on a vécu comme Noël, de tout ce qu'on connaît, dans l'élan traditionnel, et puis aussi dans cet élan commercial, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quand même un moment commercial, mais sans beaucoup de sens, sans avoir le sens de Noël présent à l'esprit. Autre option, on peut vivre Noël en nous rappelant et en nous émerveillant devant la vérité que Noël proclame, et qui est toute simple, Jésus est né. Depuis Noël, en fait, Jésus est là. Alors ça paraît tout simple à dire, mais en fait, cette vérité change tout. C'est ce que je voudrais développer ce matin. Noël, c'est avant tout, dans l'histoire, quand on lit les évangiles, c'est la fin d'une attente. Vous savez que Israël était un peuple, donc tout l'Ancien Testament décrit la naissance et puis l'histoire du peuple d'Israël. Et en fait, toute l'histoire de ce peuple converge vers un point qui est ce moment de Noël. Et quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, on voit que c'est un peuple béni, un peuple aimé de Dieu, un peuple élu, qui a reçu les plus grandes et les plus belles promesses, mais qui a une histoire catastrophique, qui a une histoire malheureuse, qui a reçu une bénédiction, mais dans un sens qui l'a complètement gâché. Et un échec sur Israël. Et pour couronner le tout, Israël, au moment de Noël, il y avait 400 ans de silence de Dieu. C'est-à-dire que pendant 400 ans, Dieu n'avait plus parlé par ses prophètes. Vous imaginez l'état du peuple d'Israël. Il devait se sentir oublié. Il devait même peut-être, pour certains, commencer à douter. Est-ce que ce Dieu est vraiment Dieu ? Et puis Noël arrive. Et Noël s'est vécu comme un exaucement d'une promesse lointaine de Dieu qui disait « je viens te sauver, je vois ce que tu vis et je viens ». Le Messie, celui qui va libérer, qui va délivrer Israël. Et au moment où on ne l'attend pas, et d'une manière inattendue et surprenante, Dieu répond à son peuple, sous la forme d'un bébé fragile. Alors, première constatation, première remarque, c'est que cette attente du peuple d'Israël, du peuple de la Bible, eh bien, elle peut trouver un écho en nous. Et je pense même qu'elle trouve que ça résonne en nous, aujourd'hui, au XXIe siècle. Parce que, dans un sens, cette attente, c'est un peu la nôtre. Je crois qu'on a tous, même inconsciemment, des attentes envers Dieu, ou quelque chose là-haut, quelque chose qui me dépasse, qui est au-delà de moi, qui est au-delà de ce monde, qui n'a pas les solutions, et j'attends quelque chose d'en haut. Quand on vit, quand on voit le monde, d'un côté, il y a des choses merveilleuses dans le monde, il y a des choses magnifiques, et puis on se dit, mais il doit bien y avoir quelqu'un au-dessus de tout ça pour créer quelque chose d'aussi beau. Avec la naissance d'un enfant, c'est merveilleux. Mais aussi, face au monde et à la vie, et puis peut-être à notre vie et aux choses difficiles, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui nous touchent profondément. On se dit, mais est-ce qu'il y a une solution ? Et je pense que chrétien ou pas chrétien, quelle que soit notre situation religieuse, on a tous quelque chose à attendre de Dieu. On attend quelque chose de lui. Et peut-être ce matin, vous êtes là et vous êtes conscient de vos attentes et vous vous dites « Dieu m'a oublié ». Et Noël dit une chose simple, « Dieu ne t'a pas oublié ». Dieu répond. Même si le silence peut être long, mais un jour il répond. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui accomplit toujours ce qu'il promet. Un deuxième aspect dans ce texte, qui est proclamé d'entrée dès que Jésus naît, c'est un sauveur vous est né aujourd'hui. Qui était Jésus ? L'histoire a retenu, et puis même les principales religions, les mouvements spirituels, tous sont d'accord pour reconnaître que Jésus, c'était un homme exceptionnel. C'était un homme de Dieu, sage. C'était un homme qui, par ses paroles et surtout par ses actes, a fait des choses exemplaires et inspirantes. Et je pense que tout le monde, toutes les religions, même l'islam, est d'accord pour reconnaître cela en Jésus. Mais ne voir que cela en Jésus, c'est passer à côté de Jésus. Le cœur de ce qu'il est, le cœur de ce qu'il est venu apporter, est contenu dans son nom. Et son nom, littéralement, signifie le Seigneur sauve. Et pour que Dieu donne ce nom à son Messie, c'est pour bien montrer que c'est au cœur de sa mission, sauver. J'ai bien aimé cette parole dans le chant, je n'avais jamais remarqué avant. On a chanté tout à l'heure que Dieu est le créateur du salut. Et c'est vrai que des fois, humainement parlant, le salut n'est plus possible. Plus de possibilités. Peut-être médicalement, peut-être financièrement, impossible. Mais Dieu est le créateur du salut. C'est-à-dire celui qui fait jaillir de nulle part quelque chose qui sauve. Dieu est celui qui est capable de créer à partir de rien. Et peut-être que dans cette situation, effectivement, il n'y a rien qui peut te sauver. Mais Dieu, lui seul, est capable de créer un chemin de salut pour ta situation. Alors à Noël, c'est vrai qu'avec tous les Noëls successifs qu'on a vécu, peut-être qu'on est presque blasé, peut-être. Mais j'aimerais ce matin qu'on s'émerveille à nouveau du sens de Noël. Parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire à Noël. Depuis la nuit des temps, les hommes cherchent le divin. Depuis la nuit des temps, ils bâtissent des temples. Ils créent des cultes et des cérémonies. Ils vont voir des prêtres, des chamans, des astrologues. Parce qu'ils ont des questions. Parce qu'ils ont des problèmes. Et qu'ils veulent des réponses. Et c'est légitime. Et ce qui est extraordinaire à Noël, c'est que Dieu vient. À Noël, ce n'est plus l'homme qui cherche Dieu. C'est Dieu qui vient trouver l'homme. C'est lui qui franchit cette distance infranchissable pour un être humain. Il vient du ciel sur notre terre. Et c'est extraordinaire de considérer que nous ne sommes plus là à quémander envers une divinité, mais cette divinité-là vient nous rejoindre. Et je trouve ce fait extraordinaire. Extraordinaire parce que Dieu n'était pas du tout obligé de faire comme cela. Dieu aurait très bien pu continuer d'exercer sa divinité à distance, à déterminer quelques temples, quelques personnes consacrées, et puis hop, on fait tourner la machine comme ça. Ou alors simplement faire une visite de passage. Je viens et je repars. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Il est venu définitivement au sein de l'humanité, parmi nous, pour nous. Et comme cette bougie, l'humanité est comme une bougie éteinte. Et nos vies, peut-être, ce matin, sont comme une bougie éteinte. Et Dieu est comparé à la lumière. Et quand Jésus vient et naît, c'est comme s'il vient, lui, la flamme, allumer cette bougie et rester là. Rester sur cette bougie. Et cette bougie se met à illuminer la pièce. C'est pas anodin que Jésus vient la nuit. Vous savez, Jésus est présenté dans ces textes qui présentent Noël comme la lumière. Et il vient la nuit. Pour montrer que Jésus ne vient pas dans les choses glorieuses, quand les choses sont assez haut niveau, assez saintes. Dieu vient dans la nuit. Dieu vient dans les ténèbres. Dieu vient là où il y a besoin de lui. Dieu vient là où il y a des pleurs, la tristesse, des fers. Dieu vient dans notre nuit. Il vient nous rejoindre là. Il ne vient pas quand nous le cherchons, quand on vient à l'église, quand on fait cette bonne action, etc. Dans nos moments peut-être où on se sent fort devant Dieu spirituellement. Non, Dieu vient nous rencontrer quand on est au plus bas. Il vient nous chercher là. Voilà une chose que dit Noël encore. L'apôtre Jean, lui, utilise tout un autre vocabulaire, aussi merveilleux, mais vraiment avec d'autres mots. Et je vais citer Jean. « Celui qui est la parole est devenu un homme, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. » Il parle encore un peu plus loin et il dit « Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché. » La parole ici, c'est le Fils de Dieu, et c'est Jésus-Christ. Et ce texte parle de ce qu'on appelle, comme gros mot, l'incarnation, c'est-à-dire Dieu, le Fils de Dieu, prend la forme d'un corps, revêt un corps, devient un homme, véritablement homme. Et l'incarnation, ce qui se passe en fait quand Jésus naît, Dieu apparaît sur la terre dans un corps. Il y a quelque chose de très puissant dans cet acte-là. Parce que l'incarnation, c'est quelque chose de définitif. C'est Dieu qui scelle son sort au nôtre. C'est Dieu qui se lie pour l'éternité avec l'humanité. Il a revêtu notre humanité. Il nous rejoint dans la nuit, peut-être dans notre malheur, pour nous relever et nous conduire à la lumière. Et puis, Jésus fait homme, nous dit aussi quelque chose de rassurant et de fort. Je ne sais pas si vous connaissez la pub « Qui mieux que Renault connaît peut entretenir votre Renault ?» Quand Jésus prend un corps, il prend notre condition, il prend notre situation, en fait, il devient légitime pour nous dire « Je te comprends, je sais ce que tu vis, je ressens ce que tu ressens, je peux te comprendre. » Je connais, Jésus a connu la faiblesse, il n'a jamais péché, il n'a jamais déplu à Dieu, mais il a connu la faiblesse, il a connu la tentation, il a connu les sentiments, les beaux sentiments comme l'amour, mais aussi la haine, comme les rires, la joie, mais aussi les pleurs. Et il a tout vécu, et surtout le côté négatif, l'injustice, la trahison, le rejet, les coups, tout cela il a vécu, il sait. J'aime bien les questions des enfants, parce que les questions d'enfants sont naïves, mais en fait elles touchent des choses qui sont pertinentes. Et un enfant pourrait très bien dire « Mais où est la maison de Dieu ? Où est-ce qu'il habite Dieu ?» Bien, dans un sens, depuis Noël, la maison de Dieu est aussi là. Oui, bien sûr, Dieu habite au ciel, dans la gloire. Et depuis Noël, la maison de Dieu est aussi là. Et dans ce passage, la parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Le verbe « habiter » en grec, c'est un mot qu'on pourrait traduire, c'est moche, « tabernaclé ». Il a dressé sa tente. Il apparaît 5 fois dans la Bible. Et en fait, c'est une référence à toute l'histoire d'Israël qui était accompagnée par une tente, la tente de la rencontre. Et c'était le lieu où quand les hommes voulaient rencontrer Dieu, ils venaient à cette tente et Dieu était là. Et puis plus tard, cette tente est devenue le tabernacle et c'était là où la présence de Dieu reposait sur terre. Alors, c'était super parce qu'Israël avait un grand privilège de pouvoir trouver Dieu, mais l'inconvénient, c'est que c'était toujours un endroit bien précis. Et il fallait montrer patte blanche pour arriver jusque-là. Eh bien, Jésus, quand il vient, il est présenté comme ce tabernacle. Il est cette présence qui vient habiter au milieu de nous. Jésus, en cela, est la présence permanente de Dieu. Et cette présence, c'est un merveilleux cadeau. Vous savez, Jésus, il est appelé aussi, et c'est dans les textes de Noël, l'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Il est annoncé comme l'Emmanuel. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, quand Jésus part, il dit « Je suis présent avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors on peut se dire « Il y a une contradiction là. » Mais en fait, non, il n'y a pas de contradiction. Parce que quand Jésus, avec son corps, est parti, son esprit est venu sur la terre. Et ce que vous sentez ce matin, peut-être vous avez senti quelque chose d'en haut, quelque chose qui vous touche, quelque chose qui vous parle, eh bien c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ qui vient et qui parle. Et depuis Noël, la présence de Dieu est là. Et elle ne cesse de remplir la terre. Et comme disait Rodrigue, tous ceux qui ont goûté à cette présence vous diront qu'elle est merveilleuse. « J'ai deux enfants. Ils ont aujourd'hui 14 et 13 ans. Et quand ma dernière était plus petite, elle devait avoir 5 ans, elle m'a dit quelque chose un jour qui a transpercé mon cœur de père. Alors, bon, dans les souvenirs, on déforme toujours un petit peu, mais grosso modo, ça devait être ça. J'ai eu la chance d'avoir passé beaucoup de temps avec mes enfants. Mon épouse travaillait, donc moi, je m'occupais d'elle. Et puis, ma petite fille pleurait. Elle était dans une autre pièce et elle pleurait. Alors, je viens, j'arrive et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux? Et puis, elle pleurait. Elle devait avoir 5 ans. Elle faisait que de pleurer. Et vous savez, ces cris-là, ces pleurs qui vous empoignent là, dans les entrailles, parce que ça touche le cœur d'un père. Et puis, je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux à boire? Est-ce que tu veux à manger? Qu'est-ce que tu veux? Et puis, elle se tourne vers moi, elle me dit, je veux toi. Papa, je veux toi. Et là, cette parole m'a transpercé, et je l'ai prise dans mes bras. Je veux toi. La présence de Dieu, de la présence d'un père, émane une atmosphère. De la présence de Dieu émane sécurité, paix, amour. Et puis même, c'est au-delà des mots. Même nos mots sont trop faibles pour décrire la présence de Dieu. Et ce que disait ma petite fille dans ce cri d'un enfant de 5 ans, c'est finalement, je trouve quelque chose de très profond. Je ne veux pas Dieu pour tout ce qu'il m'apporte. Je ne veux pas Dieu pour ses bénédictions. Je ne veux pas Dieu pour ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire dans ma vie. Je veux Dieu pour ce qu'il est. Je veux Dieu pour ce qu'il est. Et c'est son être dont j'ai besoin. Et ce matin, peut-être on ne le comprend pas, on ne l'identifie pas, mais le premier besoin fondamental de votre vie, c'est l'être de Dieu. Et cet être de Dieu, il est venu jusqu'à vous. Et il vous est donné. Dieu est là. Depuis Jésus, Dieu est là. Il y a un artiste chrétien que j'aime beaucoup. Alors musicalement, j'aime pas trop. Chris Bowater. Mais ses paroles me mettent par terre. Et il dit, notre Dieu ne nous regarde pas de loin. Mais lorsque nous venons vers lui, parfois d'un pas hésitant, nous découvrons que non seulement il s'approche de nous, mais qu'en réalité, il est déjà là. À portée de murmures, de regards, et si proche qu'on pourrait le toucher. On ne s'en rend pas compte. Nous, on vit, mais Dieu est venu et il est là. Et il est tout près de nous, tout près de nous. Pas besoin d'aller à l'église, pas besoin d'aller rencontrer un homme ou une femme de Dieu. Dieu est là, présent, près de chacun. Et je trouve que le simple fait de cette présence est un cadeau extraordinaire, parce qu'on ne le mérite pas. Une présence accessible, illimitée. Et vous savez, le pire pour quelqu'un qui vient de très très loin pour vous voir, le pire, c'est l'ignorer. C'est lui fermer sa porte. Ou c'est de dire, il est dans le salon, on l'invite, on le fait asseoir, et puis hop, on s'esquive dans la chambre et puis on lui cause plus. Dieu est là pour nous. Et je voudrais terminer ce partage ce matin avec une simple question où j'ai déjà donné des éléments de réponse. Pourquoi Jésus est venu, en fait? Pourquoi est-il venu? Pour être là, pour qu'on soit bien, c'est une chose merveilleuse à découvrir, mais plus précisément, il y a dans la Bible un verset qui répond magnifiquement, en quelques mots, il donne l'essentiel. C'est un verset qu'on trouve en Jean 3,16 et qui dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne se perdent pas, mais aient la vie éternelle. » Ce verset proclame que nous sommes perdus, égarés. Et peut-être notre raison veut le nier. Notre conscience veut dire, mais non, c'est bon, ta vie, c'est bon. Tu sais où tu vas, tu sais ce qu'il y aura demain, tout va bien. Mais honnêtement, est-ce qu'on est aussi sûr que cela ? Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Dieu ne nous a pas créés pour péricliter, descendre jusqu'à la mort, et que notre vie soit juste une descente jusqu'à la fin. Nous avons été créés pour vivre éternellement. Et c'est ce que Jésus est venu apporter. Et on a été déviés de la trajectoire. On a été déviés du bon chemin par ce qu'on appelle le mal, le péché. C'est-à-dire tout ce qui déplaît à Dieu. Et cela a fait dévier notre trajectoire. Mais nous avons été créés dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, pour vivre éternellement. Et on voit dans la Bible que la volonté de Dieu est toujours la même. Dieu est bon. Et il montre aux pécheurs le chemin. Et puis, il y a cette phrase qui commence en disant « Dieu a tellement aimé le monde !» Mais qui est le monde ? Est-ce que c'est la foule, c'est les gens, c'est le monde ? Non, le monde, c'est vous et c'est moi. Parce que dans la foule, même dans la foule de toutes les personnes, Dieu voit chacun de nous, précisément. Son regard est sur chacun d'entre nous. Et il nous voit dans le monde. Et vous savez, le monde, dans la pensée de Jean, c'est quelque chose d'assez négatif. Le monde, c'est la vie éloignée de Dieu. Et ça nous dit encore que Dieu nous voit dans le pire moment de notre vie, quand on ne le cherche pas, quand on n'est pas très bon à ses yeux, quand on n'est pas très saint. Dieu nous voit. Il nous aime. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Dieu ne demande rien. Dieu n'attend rien de nous. Qu'est-ce qu'on pourrait donner à Dieu ? Dieu ne demande rien, il donne. Et ce qu'il donne, c'est son Fils unique. Et quand on découvre le cœur du Père, on réalise combien ce qu'il a donné lui a coûté. Et on comprend que le don qu'il nous a fait a une valeur folle, déraisonnable. Mais Dieu l'a fait. Il a donné son Fils et son unique en plus. Tout l'amour du Père est concentré en Jésus. Et en vous donnant Jésus, en me donnant Jésus, il m'a tout donné. Tout. Alors j'ai parlé, j'ai commenté la parole de Dieu, et je voudrais terminer par une simple vidéo qui reprend et résume ce que j'ai partagé. Que tu peux envoyer. Thank you. Dieu vous aime.